Vous voyez dans ce livre de Samuel que la maman Anne est stérile. Prenez votre Bible et ne vous distrayez pas autre chose. C'est un homme qui a deux femmes. Pourquoi ? Parce que la première femme, Anne, est stérile. Donc, dans la coutume, en Afrique, etc., même en Orient, elle est stérile, on la répudie, ou on la garde, mais on prend une deuxième. La deuxième aura des enfants, forcément qu'elle va un jour se moquer de la première. Si le bonhomme aime vraiment sa première femme, il la garde, mais elle va devenir la potiche. Hein ? Ou alors, elle est agressive et elle mate la deuxième. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est ce qui est arrivé avec Sarah et vis-à-vis d'Agar. Hein. Super électrique, la Sarah. Pourtant, beaucoup plus vieille. Hein. C'est pas laissé faire, la tigresse. Alors, premier livre de Samuel, vous voyez qu'il y a une femme qui est stérile. Au verset 5, il donnait à Anne une portion d'eau. Il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Quand ils vont prier, ils offrent des sacrifices, ils mettent les mains sur le mouton, le bœuf, la tourterelle, confessent ses péchés. L'animal est tué, ouvert en deux, on brûle les entrailles et la graisse. La viande est cuite. Une partie de la viande est donnée au prêtre, mais parfois est rendue à la famille. Eh bien, il en donnait une portion double à Anne. Il en donnait une simple à l'autre femme, Penina. Et pratiquement, je veux vous dire ceci. Aujourd'hui, le cas de stérilité est très très fréquent. Soit qu'on a pris la pilule, vas-y gogo, depuis longtemps, on devient stérile, alors on prend des médicaments. Et paf, on a des problèmes de santé, parfois à vie. Parfois, on a plus d'enfants qu'on en aurait voulu, etc. Ou on a avorté plusieurs fois, parce qu'on a mené une vie de patachon. Et ce qui se passe, il y a des problèmes de fécondité. Mais en dehors de ça, sachez bien que l'avortement existait déjà à Babylone, en Grèce, à Rome, etc. On retrouve des trucs là-dessus, des récits, des statues, etc. Alors, pratiquement, la stérilité est toujours très fréquente sur la Terre. Si on la considère comme une horreur, voilà ce qui se passe sur la Terre, on rejette la femme, ou la femme se dévalue, se suicide, ou finit comme prostituée, finit comme mendiante. Mais moi, je pense que la stérilité est un appel de Dieu dans la Bible. C'est un appel de Dieu à la puissance de Dieu. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, c'est un appel à la puissance de Dieu. Sarah, la femme d'Abraham, c'est un appel à la puissance de Dieu. Toute situation difficile peut nous rendre dépendants de Dieu et que nous appelions Dieu. Tant que nous nous bâtissons sur nos forces et nos idoles, nous ne découvrons pas la vraie dépendance et les vrais fruits de la dépendance. C'est ce que Anne, bien sûr, après avoir été humiliée par cette femme, elle s'est livrée à Dieu. Même si on se moquait d'elle, même le prêtre se moquait d'elle. Et on peut se moquer de quelqu'un qui cherche à dépendre de Dieu, parce que face à ses problèmes, il abandonne tous les moyens humains. Alors, regardez au verset 12, au verset 13, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel et Élie observa sa bouche. Il y a toujours des gens pour se moquer de quelqu'un qui prie longtemps et qui prie souvent. Il y a toujours des gens, même qui se disent croyants, peuvent se moquer de quelqu'un qui prie souvent et qui prie longtemps. Mais ne regardez pas à l'homme, cherchez à plaire à Dieu. Et sachez bien qu'il répondra à la prière. Autant qu'il le faut, il faut se mettre à genoux devant le Seigneur. Quand j'ai commencé à devenir évangélique, je suis rentré dans une église. Ce n'était pas facile. Nous avons connu beaucoup d'humiliations. Beaucoup d'humiliations. Surtout moi. Et pratiquement, un frère est venu, qui parlait allemand, est venu prêcher, et il m'a dit en sortant, il m'a dit, Jean, n'oublie jamais, tu grandiras, tu vois comment tu es là, ici, si tu marches à genoux, Dieu te relèvera un jour. il avait raison. Pourtant, je ne me marrais pas, je n'aimais pas d'être à genoux. Amour propre égale amour mal propre. Il a bien fallu. C'est Dieu qui l'a voulu. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Moi j'ai quelqu'un ici, il y en a plusieurs qui viennent prier ici, hein, maintenant, dans la salle. Mais j'ai quelqu'un qui, quand il prie, si quelqu'un rentre, il pourrait dire, eh ben, il est sous, il fait quoi là? J'ai déjà eu des réflexions, j'ai dit, mais laissez, s'il vous plaît, laissez, de quoi vous vous mêlez? Il y avait un grand courant spirituel qui est né en Écosse et qui s'est répandu aux États-Unis. Ce sont les premiers à avoir défendu les Noirs et à vouloir qu'on abolisse l'esclavage. C'est-à-dire Quakers. Et que veut dire Quakers? Tremblement. Si on regarde à des signes extérieurs, on juge la personne et on ne s'intéresse pas à elle. Moi, quand je prie, je ne tremble pas, etc. Il n'y a pas d'autres phénomènes. Mais ce n'est pas pour ça que l'autre qui en a est moins que moi. Ça dépend de la vérité de sa relation avec le Seigneur. Pour le reste, basta. Qu'on ait un chapeau pointu ou un chapeau plat. Alors, voilà, c'est un homme, Élie, qui se fie à l'apparence. Et il prend cette femme comme ivre, alors qu'elle est simplement en train de se livrer au Seigneur. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Tiens, voilà la clé. La clé de la résurrection. La clé, après être crucifié en Christ, après être crucifié en Dieu. La clé du relèvement. C'est pour ça que je vous ai dit. Êtes-vous crucifié en Christ? Alors le Seigneur est là pour nous relever. Que va-t-elle faire? Elle va demander un enfant à Dieu. Et cet enfant, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? D'abord, le prêtre va changer d'avis. Il a certainement été très honteux. Il était un faible. Il se fiait aux apparences. Et cette femme, la vérité de cette femme l'a touchée. Mais elle n'a pas changé. Elle est sensible. Mais il manque de vérité. Dans la vie, on peut être sensible et manquer de vérité. Il faut être sincère et ne pas être vrai. Il ne faut pas confondre. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Nous voyons que cette femme est transformée. Car dans l'humiliation vécue et consentie, le Seigneur lui donne une bénédiction. Alors, elle va offrir cet enfant à Dieu. Où est-ce que c'est? Dans quelle parole? Eh bien, c'est au verset 11. Je le consacrerai à l'Éternel pour être toujours de sa vie. Donc, il ne sera pas à elle. Au verset 11. Tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Tu te souviens de moi. Tu n'oublies point ta servante. Elle se met à son service. J'ai entendu des chrétiens me dire, je ne me suis jamais mis au service de Dieu, moi, je me suis converti pour être sauvé, c'est tout. Je suis parti très triste en disant, c'est foutu pour cette personne, elle souffrira toute sa vie.
Bonne journée.
Elle souffrira toute sa vie, parce qu'elle ne s'est pas mise au service. J'ai demandé qu'à partir du mois de septembre, chaque fois que Benjamin va prêcher, il va prêcher sans doute régulièrement, qu'il parle du service, toute l'année, qu'il prêchera. Les différents services que nous devons présenter à Dieu. Il a assez avec ça. Dans la Bible. Il a assez avec ça. Et pour que l'accouchement se fasse, hein, comme les baleines, ça prend du temps. Hein. 23 mois, je crois, les baleines. Eh bien, pratiquement, il a le temps de se préparer, d'accoucher, de faire des bonnes prédications. Les services. Divers à Dieu. Alors, elle a promis à Dieu, non pas qu'elle possède quelque chose, elle a promis de consacrer à l'Éternel cet enfant. Donc, quand elle vient au temple, regardez bien en verset 27 et 28, C'était pour cet enfant que je priais, dit ça au prêtre. L'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Ou si je veux le présenter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Elle ne peut pas le donner, puisqu'il dit à Dieu. C'est pour ça qu'elle ne dit pas je le donne. Elle n'est pas revenue sur son sentiment, sa vérité de cœur. Elle ne peut pas le donner puisqu'il est déjà donné. Elle l'a dit avant la prière, avant d'être enceinte. Ça, c'est une femme très fine, hein? Très fine et très vraie. Elle ne revient pas sur les que ton oui soit oui. Elle ne revient pas, elle ne triche pas dans son offrande. Elle sera toute sa vie prêtée à l'Éternel. Nous avons été baptisés un jour. Nous avons confessé Jésus devant les autres. Est-ce que nous avons fait comme cette femme? Est-ce que nous allons revenir sur cette vérité du cœur que nous avions au moment du baptême? Si nous retournons en arrière sur cette vérité, c'est pour ça qu'il y a un témoignage, qu'on met beaucoup d'importance au baptême par immersion. Parce que ce témoignage, s'il répond à une vérité du cœur, il scelle le cœur. Déjà au moment de la conversion, mais il le scelle devant les démons, devant les esprits impurs, devant le passé, devant les liens familiaux. Il le scelle devant les anges et devant Dieu. Et il est appuyé par la prière des frères et des sœurs. Et pratiquement, il ne faut jamais revenir sur la vérité du cœur qui a existé à un moment donné quand on s'est offert à Dieu. Si on revient dessus, on est le plus malheureux des hommes ou des femmes. Regardez Judas. Ça a mal tourné. Regardez Pierre, il a pleuré amèrement. C'est bon que Jésus était le recherché. Parce que Jésus est bon. Alors, elle peut paraître radicale et extrémiste. Et alors, on peut dire, oh, c'est une extrémiste. Oh. Oh, c'est pas possible, ces gens-là, je les supporte pas. Hein. Oh, c'est pur et dur et net, c'est radical. Oh, c'est trop, quoi, ils exagèrent. Ben oui, hein, la vérité mélangée. Tout le monde aime ça, même, surtout le diable. Alors, Anne, évite le rituel classique. Regardons au verset 21-22. Chapitre 1. Je reprends tout ce thème parce qu'il est très important. Son mari monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu. L'homme y va 3 fois par an, hein? Les garçons aussi, à partir de 12-13 ans. Mais ce qu'il y a, pratiquement, toute la famille, femmes et enfants, filles, y vont 1 fois par an avec les hommes. Et lorsque l'enfant... Mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, il a beaucoup changé, Elkana. Son mari lui dit, « Fais ce qui te semble bon. Attends d'avoir sevré, peut-être 3-4 ans, hein. Fini le néné. Veuille seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » Ah ah! Voilà un homme tiède et médiocre qui tout d'un coup se rend compte que la parole qu'on dit cette femme puisse-t-il faire de la même chose. Mais il s'en rend compte. La parole de Dieu, et Dieu dirige sa femme. Et ça, cette fois-ci, il est prudent. Adieu la superficialité. Il se remet en question. Et Anne ne va pas là-bas. Pourtant, c'est une obligation. Il y a des rites, des sacrifices. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas le moment où elle doit donner son fils. Ce n'est pas essentiel. Elle va venir faire mieux que donner un veau, une tourterelle, un agneau, le fils. Quand Dieu a donné son fils. Elle évite le rituel classique qui devient souvent mensonger. Rituel purement religieux, son exemple est payant. Regardez, chapitre 15, versets 22-24. Son exemple est devenu payant. Regardez bien la Bible, chapitre 15. Plus tard, dans toute sa vie, son ministère, cet enfant-là, parce que sa mère l'a appris, tout petit, à ne pas prendre les vessies pour des lanternes, à prendre la religiosité et les rites pour l'essentiel, Le masque, pour une vérité, elle lui a enseigné le vrai chemin. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance à la parole n'est pas moins que le théraphime, l'idolâtrie et les théraphimes. C'est des pierres jouées au hasard, au sort des décisions de Dieu, imaginez. Alors, nous voyons ici que cet enfant a réellement une vision claire. Le mensonge d'une pratique religieuse rituelle sans véritable don de soi à Dieu, sans véritable consécration. Il l'a pris au néné. Il l'a appris au néné et c'est resté. Et il l'a appris aussi par Dieu tout le long de sa vie. Regardez 9-6. J'ai aussi quelque chose souvent quand je prie pour nos trois fils. Je vais vous dire que nous aimons beaucoup, évidemment. Nous croyons que Dieu fait son œuvre. Je n'ai jamais quasiment enseigné mes enfants mal. C'est ma femme qui s'en occupait. Après, à l'école du dimanche, c'était encore ma femme. Puis après, d'autres personnes. Je suis fautif, en premier lieu, en premier rang, de ne pas avoir consacré du temps à moi, qui me croyais trop attaché à mon travail, à ces idoles-là, pour donner la parole de Dieu à mes fils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est une histoire de bonne femme, la parole de Dieu. Donc, quand on sera grand, je leur ai montré le mauvais témoignage. Ça, c'est le poison que je leur ai donné. Tous les jours, je le confesse devant Dieu et je demande à Dieu, dans sa grande grâce, de réparer les brèches que j'ai ouvertes dans les murailles sur nos fils. Un père de famille a une tâche essentielle. Il doit montrer tous les jours que la parole de Dieu est importante pour lui et pour ses enfants. Basta, il est trop occupé à tout. Eh bien, il va le payer cher. Moi, je le paye cher aussi. Mes fils peut-être aussi, et leurs enfants. 3-4 générations peut-être. Si Dieu veut faire grâce et secourir, il est lent à la colère et miséricordieux. Peut-être que, bien, oui, il y aura un signe émergent. Mais en attendant, je ne peux pas revenir en arrière sur ce que je n'ai pas fait. J'ai péché par omission. C'est horrible de se rendre compte, de faire des bilans, mais je ne m'aplatis pas, je ne m'écrase pas. Je me présente devant le trône de la grâce de Dieu et je dis, Seigneur, tu es tout puissant. Tu me fais grâce, tu m'aimes, tu es mort à la croix pour moi, c'est des péchés graves. Mais Seigneur, maintenant, si tu veux bien, dans ta miséricorde, je prendrai le temps de le dire aux autres, de les avertir de ne pas faire comme moi. Je prendrai le temps aussi de prier, Seigneur. Viens à leur secours. Ne regarde pas mon péché, mais regarde à ta grâce, à ta gloire pour eux. Chapitre 7, verset 15. Être chrétien parent, c'est toujours faire un bilan. Et si on est honnête, la colonne du positif n'est pas si grande que ça. La colonne du négatif, oulala. Et bien pratiquement, il n'y a que dans la foi et dans une relation à Dieu où on sait que Jésus nous aime. Fondamentalement, il nous aime. Moi, pécheur, sauvé par grâce, pas par mon mérite, je peux présenter un bilan négatif, comptable. Et je ne suis pas en faillite. Parce que le sang de Jésus m'a racheté. Parce que le sang de Jésus peut couler sur mes enfants. La grâce peut couler sur mes enfants. Alors que mon bilan personnel est en faillite. J'ai fait le gugus. Que je sache ou pas, j'ai fait le gugus. Et ça, c'est une grande chance. Un grand bonheur. D'avoir un Dieu pareil. D'avoir une foi pareille. D'avoir un Christ vivant à mes côtés. À qui je peux parler, dire ça. Que je l'aime. Parce que son amour est infini. et ne regarde pas à mes iniquités. Pas seulement mes péchés. L'iniquité, parce que des péchés dans lesquels j'ai bien pris part, hein, avec une tête de lard, au premier degré. Je confesse que je n'étais pas digne de servir le Seigneur. Une fois, une femme est arrivée ici, dans l'église. Elle voulait absolument que tout le monde parle en langue à tout bout de champ, à tout bout de temps. Tout le monde. Alors, comme je ne voulais pas, elle est arrivée à la maison, elle est arrivée à table, gentiment, on l'a invitée à table, elle avait une liste de tous mes défauts. Et puis, quand elle est finie, elle croyait que j'allais m'effondrer, sans doute, ou qu'elle allait me perforer et obtenir tout ce qu'elle voulait dans l'église. Et pratiquement, je lui ai dit, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait vrai, tu en as encore oublié, je dis. Mais je vais te dire, regarde tous les apôtres, regarde. La bande de clampins, ben j'en suis un aussi. Et regarde bien, le Seigneur a choisi des clampins pour le servir. Maintenant, dans sa grâce, il peut nous changer et se servir de nous. Me rendre parfait? Non. Il m'a dit, suis-moi. C'est lui qui est parfait, suis-moi. Si j'étais parfait, je marche devant lui. Alors, ça a été fini. Un peu après, ici même, parce qu'elle n'était pas contente, elle avait échoué dans sa tentative de démolition du pasteur et de instauration de prière. Ah, voilà, Shabbala. J'avais vu ça autre part. Hein. Et bien, pratiquement, je lui pose la question, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Il me dit, ben, non, je la connais tellement, ça fait des années que je ne la lis plus. Je la connais tellement, ça fait des années que je ne la lis plus. Je dis, remets-toi-y vite avant de te perdre. Demande pardon à Dieu. Simplement, je n'ai pas dit avoir tous ses défauts. Simplement, dis, il y a un chemin pour toi. Je n'ai pas fait comme elle m'avait fait. La deuxième, un peu après, j'apprenais qu'elle ne venait plus ici et qu'elle collaborait avec l'évêque de Verdun pour conduire les malades à Lourdes. Ça y est, elle allait à Lourdes. Et un an après, elle plaquait son mari, et tac, la grande chrétienne qui ne lit pas la Bible.
Elle se remet avec.
Elle. Ah.
Et oui, il s'est venu me voir hier soir.
Oh. On va prier. Oh, Jackie, ça fait vraiment une porte ouverte pour les pêcheurs à toi.
Oh oui, il vient de me voir.
Mais regarde. C'est une grâce, hein. C'est une grâce qu'il vienne te retrouver. Aussi bien vous revenir.
C'est son fils qui l'a amené. Il ne tient plus debout, Wims. Il a 80 ans.
Qui?
Wims, le mari.
Wims, c'était un chic qui. Mais c'était une merde. Il n'avait rien à dire avec elle.
Deux ans qu'il vivait tout seul là-haut.
Oui.
Mais on ne savait pas. On croyait qu'il était parti. Et il était là. Et là, il est très handicapé, il ne peut pratiquement plus marcher.
Ils sont toujours là.
Et elle est repartie en Nouvelle-Zélande, et elle a acheté une petite maison, et elle l'accueille, elle le reprend.
Où?
En Nouvelle-Zélande.
Mais il est encore là pour le moment?
Oui, il part au mois de juin.
Ah, on va le voir, hein?
Ah oui.
Allez, hein? On met le paquet, hein?
On ira le voir.
Oh, vous voyez à quel point briser.
Il m'a donné des livres pour l'église.
Ah non, on va le voir. Jackie.
Mais il parle que hollandais. Si j'avais pas son fils, je pouvais pas passer.
Non, ça va. Bon, je ferai le baragouinage. Alors, vous voyez à quel point Dieu est grand que j'espère qu'elle s'est corrigée. Hein.
Ah, moi aussi.
Parce que ça, c'est un numéro. Hein.
Oh, oui.
La femme, je sais tout. Et le mari, caca. Hein. Je m'excuse, hein. C'était ça, pourtant c'est un chic type. Hein. Et bien, elle a piétiné, et bien, elle est revenue vers lui. Sans doute que le repentir est venu. Hein. Dieu soit loué. Il n'est jamais trop tard pour revenir à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Chapitre 7. Regardez le fruit d'une consécration que cet enfant-là n'a pas voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Il a rendu un moment stérile. Il a obligé le moment à prier, à tout abandonner, à tout donner. Faites la même chose, donnez tout à Dieu. La deuxième, après, ensuite, elle prend des positions. Ce n'est pas tout ce fatras de prière-là. Moi, j'irai quand ça sera le moment. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va prêcher l'obéissance et la résistance au péché. L'obéissance à la parole. Alors, pratiquement, regardez bien, le fruit de sa vie, ça se résume à un bilan incroyable. Chapitre 7, verset 15. Samuel fut juge, c'est-à-dire qu'il va partout pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ça ce que Dieu veut, ça ce que Dieu veut pas. Vous imaginez, tous les autres sont dans la semoule, en train de patiner dedans. Ils confondent le bien et le mal. Hein ? Samuel, c'est aujourd'hui la même chose. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes à plusieurs avant la retraite, allez, formez-vous, purée. Il faut des juges, il faut des gens qui aillent dire aux gens ce qui est. Et allez-y, foncez, à Algrange, il manque d'étudiants. Il y avait un bébé de 67 ans, 77 ans l'année passée. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il y a 2 ans, il y avait une jeune fille d'Australie, le pays des kangourous. Elle a fait un sacré bond pour venir à Grange. Je ne sais pas comment le kangourou est atterri là. Hein. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Il ne va pas les, il va pas les casser. Il va les guider. Il va les éclairer. Ben, il fait ce qu'il doit faire comme un chrétien aujourd'hui, s'il est digne de ce nom. Puis il revenait à Rama, Bethléem, où était sa maison, et là il jugeait Israël, donc tout ce que les grandes décisions se faisaient, et il y bâtit un hôtel à l'Éternel. C'est pas un beau machin, ça, une belle réussite. Votre hôtel dans votre maison, votre hôtel dans votre maison, c'est votre cœur que vous sacrifiez tous les jours et que vous donnez à Dieu. C'est quand même formidable, hein? Léa et Roger qui reviennent vers Véronique, et oui, mais Monique qui reviennent vers... La petite église qui n'a pas d'importance. Prenez courage. Prenez courage. Notre petite église n'a pas beaucoup d'importance pour beaucoup de monde, mais pour Dieu, elle en a. Comment se fait-il que tant de gens m'envoient de l'argent pour servir le Seigneur depuis 93? Je n'ai pas visité le quart. Comment se fait-il qu'au moment où il y avait réfugiés, ça affluait encore plus, les dons, pour accueillir les réfugiés qu'on ne dépend pas de la commune de Sébaïs et tout le reste? N'est-il pas merveilleux? Comment se fait-il qu'il y a eu des guérisons ici, dans cette salle, et tout? Sur 20 ans, il y en a eu plus qu'à Lourdes. En 100 ans, il y en a eu 4-5. Et pourtant, ils vont tous avec la charrette, ils vont tous courir. Et ramener des bouteilles d'eau bénite. Une bouteille en plastique à la Vierge Marie. Les amis, regardez les grâces qu'on a eues dans notre église. Crachons pas dessus, continuons à avancer par la foi. Regardez ce qu'a fait cette femme, regardez ce qu'a fait ce fils. Si nous voyons nos enfants revenir vers le Seigneur, attention, faisons comme le papa qui court vers eux, qui les prend dans les bras et qui tue l'agneau gras, le veau, qui met la bague. Qu'est-ce qu'il faut tuer en nous? C'est le doute. Le veau gras, l'agneau et tout ça, c'est nous. Il faut tuer notre doute et notre incrédulité. Et notre alliance avec l'enfant revenu, il faut la sceller. Là, c'est un amour qui n'est pas né de la chair, mais c'est un amour qui vient de Dieu. Ce sera différent. Donc, l'action de grâce de la maman est recourue à l'œuvre de la parole, de la grâce. Et cette femme a eu un esprit prophétique. Elle a vu son fils dans les mains de Dieu pour le servir. Donc, ça valait la peine de le mettre dans les mains de Dieu. Ça vaut toujours la peine de mettre son fils et sa fille dans les mains de Dieu dans la prière, tous les jours. Et de dire, il n'est pas à nous. Le drame de Madame Ève, Madame Adam, Madame Adam, de son prénom Ève, c'est que quand elle a un enfant, elle dit, je remercie l'Éternel car il m'a donné un enfant. Regardez dans Genèse, elle n'a pas dit, nous a donné un enfant. Elle a dit, m'a donné un enfant. Ça y est. Regardez ce que ça a donné. Le petit papa à la maman, le petit fils à la maman, bien chéri, bien gâté. Il a tué son frère. Et il ne savait pas prier convenablement. Il voulait présenter des offrandes avec mérite devant Dieu. Mais ils ne voulaient pas de l'agneau sacrifié, de la grâce offerte en Jésus-Christ. Alors qu'Abel désirait la grâce en Jésus-Christ, dans l'agneau sacrifié. Alors, nous pouvons dire que l'autorité de la parole de Dieu est très importante. Prenons l'épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Ah, il y a des bonnes nouvelles, hein. Merci Jackie. Hein. Ah. C'est des bonnes nouvelles, ça. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15 à 25. Mais sans doute qu'il va être temps d'arrêter, hein, si on sait moins quart. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, quand ils allaient au temple, tous, et Cana, Pénina, tous les enfants, et Anne, c'était parce que Dieu les appelait à être à sainteté, rien d'autre. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le comprenaient. Anne, après, à cause de l'épreuve, l'a compris. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est décrit, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est Lévitique, hein, chapitre 19, verset 2, je pense. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté. Ça, Anne l'avait compris. Ça, Samuel le prêchait. Tous les sacrifices dans le temple et tout ça, Dieu n'a pas besoin de vos offrandes et votre mensonge. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pas de résistance à sa parole, à sa volonté. Regardez, c'est ça. C'est ce que Pierre dit aux chrétiens. La vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. Donc, cette fichue tradition continuait. Déjà du temps de Samuel. Et ça continue, ça continue. Ça continue dans le monde. Ça, c'est la vie dure, hein, ça. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, le cœur échangé par la parole, verset 23, puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça, c'est la clé de Samuel. Ça, c'est la clé de son ministère à travers tout Israël. C'est ça qu'il va vouloir contaminer. Vous aussi, mes frères et mes sœurs, soyez comme ça. Soyez des Samuel, avec un E-L ou deux L-E. Soyez des Samuel. Ne perdez pas vos temps. Comptez les dernières années qui vous restent à vivre. Vous soyez jeunes ou vieux. Soyez juges. Discernez le bien et le mal. Et avec amour, dites-le. Priez. La semence incorruptible que vous donnerez régénérera des gens. Le baratin sur des tas de choses et toutes les idoles qu'on a vont les écarter. Je peux le dire franchement que ma femme m'a souvent dit, tu vas arrêter des trucs. Combien de fois Marianne m'a dit? Des milliers de fois. Alors, l'action de grâce de la maman qui rend grâce à Dieu tous les jours de sa vie, pendant que son fils grandit dans le temple. Elle lui offre une petite robe, une petite mignonne robe pour être un petit prêtre, quoi. Hein, vous avez vu dans le premier livre de Samuel. Hein, je vois Véronique faire ça, moi, avec ses enfants. Moi. Je le vois bien. Elle est déjà en train de mettre une petite robe à tous les enfants qui viennent à l'école. La petite robe de la parole de Dieu. Véronique et Bénédicte ont mis une petite robe de la parole de Dieu sur les enfants. Un revêtement nouveau. Un revêtement nouveau. C'est ça, cette femme. Hein? Chapitre 2, 18 et 19. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. C'était pas mieux à cette époque-là que maintenant. Tout le monde était menteur et trompeur alentour de lui. Et ce petit garçon a tenu bon. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir un sacrifice annuel. Et une fois par an, elle voyait son fils, chapitre 2, verset 19. La petite robe du sacrifice, de la prière, de l'intercession. Le petit gamin a déjà le bon chemin. Et sa mère, qui prie tout le temps pour lui, et qui a eu d'autres enfants, sa mère le revêt tous les jours de sa prière. Et une fois par an, elle le revêt de la petite robe, qui n'est que le signe de toute sa prière de consécration continuelle. Oui, je vais arrêter. Pratiquement ce qui se passe dans cette école, nos deux filles ont fondé, où elles n'ont pas de salaire. C'est la preuve d'une action de Dieu. C'est la preuve d'une consécration. Elles ont touché tellement Léa et Roger qu'ils passaient devant la maison plusieurs fois et pour finir, elle les a vus. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui a reçu quelque chose qu'il ne reçoit pas dans le monde, il le sait toujours. Donnez ce qu'il y a de meilleur à l'enfant. Donnez-lui des gens consacrés à Dieu. Donnez-lui une robe, la robe de la parole de Dieu. Revêtez-le de la parole de Dieu, dès qu'il est tout petit. Sinon, il est foutu. Vous aurez beau pleurer après. Naturellement, ça peut arriver qu'on a fait des gaffes monstrueuses. Mettons-nous à genoux, repentons-nous. Autant qu'il le faut, Dieu peut venir au secours de nos enfants si on ne l'a pas fait avant. C'est sûr et certain, Dieu est grand. Regardons 2e à Timothée, et j'arrêterai. 2e à Timothée, chapitre 1. J'ai trouvé formidable cette situation du petit Samuel. Et regardez notre cher Timothée, 2e à Timothée. Notre cher Timothée, un serviteur de Dieu, que Paul a été pêché chez maman et mamie. Il est passé par là et hop. Et hop. Il l'appelle et le petit gamin le suit. Pourquoi ? Terrain préparé. Terrain préparé. Par maman et mamie. Si maman et mamie se taisent, il n'y a rien de préparé. Le diable prépare tout le reste. 2e à Timothée, chapitre 1. Chapitre 1, verset 3 à 8. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens. Bonjour. Oh, quel mignon. Quels qui sont mignons. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Oh, Lucas, t'es formidable. Bonjour, ça va être fini. Hein? Regardez, me rappelant tes larmes, désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, la grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par mamie et maman, par l'imposition de mes mains. Il l'a déjà reçu. Ce n'est que ranimer, c'est remettre du bois dans le feu. Voilà. Je souhaite que vous méditiez tout ça. Nous pouvons toujours avoir des victoires aujourd'hui. Et nous allons écouter ce que Bénédicte a voulu faire avec les enfants.
Il voulait juste se déguiser.
Voilà. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse tous. Merci pour la bonne nouvelle, Jackie. Merci pour la bonne nouvelle de Véronique. Et qui veut prier ? Allez.